Frères et sœurs, voici que revient cet évangile assez frappant, de ce riche, comparé au pauvre Lazare. Il y a plusieurs grandes thématiques qui sont abordées. Il y a celle que nous entendions dimanche dernier déjà, du danger mortel de s'attacher à l'argent pour lui-même, car on ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Il y a la thématique de la souffrance que Dieu ne veut pas pour elle-même, mais qui peut être un chemin de conversion. Et il y a une autre thématique, c'est celle-là que je vous propose de méditer, qui est celle de notre justification en rapport avec la rétribution de nos actes. C'est un des mystères centraux de notre foi chrétienne, que peut-être nous avons du mal et que nous devons essayer de regarder en face. Car il y a une double réalité. Dieu nous promet et nous donne son salut gratuitement. Il est offert à tous. Et nous avons tous déjà été rachetés au prix du mystère pascal du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Mais Dieu propose ce salut à notre liberté. Et nous avons quelque chose à faire pour accepter d'être sauvés et pour entrer dans la vie de ce salut. Car sinon, nous aurons le salaire du péché, qui est la mort, qui est la souffrance de cet homme qui se croyait riche, repu, tranquille, et qui trouve, après sa mort, la souffrance. Et ce n'est pas faute que les prophètes aient averti le peuple de Dieu quand nous entendons les paroles assez abruptes d'Amos, par exemple, dans la première lecture. Si nous restons vautrés dans nos divans, c'est ce qu'ils disent. Je l'entends pour moi aussi. Eh bien, nous, tranquilles dans notre luxe, même dans Sion, notre sort ne va pas être heureux. Et saint Paul dit à son disciple Timothée qu'il faut mener le bon combat, celui de la foi, pour s'emparer de la vie éternelle. La formule est assez osée. S'emparer de la vie éternelle. Nous avons quelque chose à faire pour nous emparer de la vie éternelle. Qu'en est-il donc? Est-elle gratuite ou faut-il s'en emparer? C'est une thématique qui occupe la méditation de l'Église depuis toujours. Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que la justification? Dieu seul a cette puissance de vie et d'amour, capable de nous sauver, c'est-à-dire de nous enlever du péché et de sa conséquence qui est la mort. Parce qu'il nous aime, et qu'il fait cela par amour pour nous. Ce don ne peut être, par définition, par essence, par nature, qu'un don gratuit. Dieu nous aime par un amour gratuit. Il nous aime non pas parce que nous sommes plus ou moins bons, il nous aime parce qu'il nous aime. Il nous aime parce qu'il est l'amour éternel, parfait, absolu, infini en acte. pour autant, nous n'avons pas rien à faire. Il nous faut recevoir ce salut et accepter de rentrer dans un chemin de transformation, de purification, de changement de notre vie, pas seulement dans notre esprit, dans notre cœur, c'est le début, mais aussi par nos actes concrets. Car si nous ne produisons pas des actes qui sont selon le salut que nous avons reçu, alors nous n'avons pas vraiment reçu le salut. Il ne nous a pas pénétré, il ne nous a pas transformé dès maintenant. C'est cela, frères et sœurs, le chemin de la conversion chrétienne. Il ne s'agit pas uniquement de, si je puis dire, d'arranger notre vie, de la rendre un peu plus honnête ici-bas, ce qui est déjà bien, mais qui est tout à fait insuffisant, ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de répondre à l'appel de Dieu, c'est de répondre à ce pourquoi, ce en vue de quoi nous avons été créés, participer éternellement à sa béatitude. Paul, par exemple, recommande avec force ces vertus actives à Timothée que nous pouvons faire nôtres. Et Paul mentionne toujours, souvent, beaucoup de vertus chrétiennes et humaines. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Voilà des vertus concrètes à pratiquer pour que nous soyons vraiment bien rentrés, que nous ayons reçu le salut, que nous avancions en lui. Cela nous pose, frères et sœurs, la question redoutable de la grâce de Dieu qui est gratuite et du mérite que nous avons apporté, des actes que nous avons à faire pour que nous puissions collaborer à l'œuvre de Dieu en nous. Voilà, frères et sœurs, le secret, la clé pour comprendre comment Dieu veut nous sauver. Il veut que nous collaborions effectivement avec lui à notre propre salut. Comme dit saint Augustin, notre Père, Dieu qui t'a fait sans toi ne veut pas te justifier, te sauver sans toi. Puisqu'il s'agit d'une œuvre d'amour, Dieu veut que nous répondions librement et réellement à son amour en nous engageant dans une vie de conversion. Saint Augustin, encore lui, explique. Car nous travaillons, nous aussi, il veut dire pour notre salut, mais nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille. Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions travailler, œuvrer nous-mêmes à notre salut avec sa grâce. Car sa grâce nous a devancés pour que nous soyons guéris. Elle nous suit encore pour qu'une fois guéris, nous soyons vivifiés. Elle nous devance pour que nous soyons appelés. Elle nous suit pour que nous soyons glorifiés. Elle nous devance pour que nous vivions selon la piété. Elle nous suit pour que nous vivions à jamais avec Dieu, car sans lui, il cite l'Évangile, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il s'agit de faire, de travailler, d'œuvrer, mais avec la grâce de Dieu. Et seule la grâce de Dieu le permet. Nous allons fêter cette semaine, frères et sœurs, mercredi 1er octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne secondaire avec Sainte Jeanne d'Arc de notre pays, patronne des missions, docteur de l'Église. Elle nous laisse une pensée remarquable et stimulante. Il nous faut faire attention quand nous pensons à Sainte Thérèse. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui a laissé faire Dieu sans rien faire. Elle a beaucoup lutté, travaillé sur elle-même pour vivre de la grâce de Dieu. Ne faisons pas de la petite Thérèse une douce rêveuse. C'est loin d'être le cas. Dans son monastère du Carmel, tel qu'il était, elle a travaillé activement à se corriger, à rechercher la perfection de la charité. Mais elle nous dit ceci de remarquable, en nous apprenant à voir au-delà de nos mérites, à contempler l'amour de Dieu et à compter sur lui en toutes choses. Dans son acte d'offrande, elle dit ceci. Elle parle au Seigneur. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie. Mais je ne veux pas amasser de mérite pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides. Car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Un modèle, frères et sœurs, un exemple, une source nous est offerte. C'est celui dont parle l'Évangile. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne croiront pas. Le Christ sur la croix nous a montré jusqu'où va le don de l'amour. Le don de l'amour pour Dieu, de Dieu pour nous, de sa miséricorde, et à quel amour d'offrande de nous-mêmes il veut nous entraîner. Amen.